Bonjour à toutes et à tous. Nous voici dans la deuxième émission du podcast de Saint-Ségal. Nous nous retrouvons avec les CM2 de l'école Julie Daubier. Aujourd'hui, nous allons interviewer Patrick Carnulutti, qui est un auteur finistérien installé sur Carhaix. Il est notamment un spécialiste du polar. Au programme également de cette émission, nous retrouverons mes camarades pour parler de cinéma et de musique un peu plus tard. On écoutera Madeline Anne, une artiste de chez nous qui vient de sortir un nouveau clip. Et nous parlerons avec Léo d'une sortie cinéma avec un nouveau film à voir en famille, Le Loup et le Lion. Nous débutons notre émission par notre invité. Bonjour Monsieur Carnulutti.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et pourquoi êtes-vous devenu écrivain ?
Alors donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Patrick Carnulutti, je suis né dans l'est de la France, je suis venu en Bretagne après. J'ai fait toute ma carrière comme infirmier dans les hôpitaux psychiatriques, travaillé avec des gens qui avaient des maladies mentales. Et puis je me suis intéressé parallèlement à la musique et à la littérature, j'ai toujours lu. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu critique littéraire il y a quelques années. Et puis après, écrivain. J'ai écrit un roman et puis c'était parti.
Pouvez-vous nous parler du polar ? Quel style littéraire est-ce et pourquoi vous intéressez-vous au polar ?
Alors le polar, pour moi, ce n'est pas un style littéraire. C'est un peu comme un gros sac, si tu veux, où on met tout ce qu'on ne sait pas trop où classer. C'est avant tout des romans, comme les autres. Ce sont des histoires, mais qui touchent toutes à ce qu'est la société en général. La littérature, ce qu'on appelle la littérature blanche, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas polar, roman noir, thriller et tout ça, c'est plus personnel, c'est plus intime. Les auteurs, ils parlent d'eux, ils parlent de leur entourage ou de l'histoire d'un personnage. Tandis que la littérature noire, il y a toujours un contexte, il y a toujours la société, ce qui se passe, les aspects un peu sombres de ce qu'on vit tous les jours, que ce soit politique, que ce soit social, avec des fermetures d'usines, avec des choses comme ça. Donc le polar, il y a une connotation sociale, mais avant tout, ce sont des romans, c'est-à-dire que ça raconte des histoires avec des intrigues. Il y a ce qu'on appelle vraiment le roman policier, où il y a un enquêteur qui a à résoudre un meurtre, un vol, etc. Ça, c'est la base, c'est le plus ancien du polar. Et puis, ça a commencé au 19e siècle, à peu près. Mais, par exemple, on peut dire que Zola, c'est du roman noir. Il y a des très, très grands auteurs français qui ont fait du roman noir avant que le roman noir existe. Et puis, c'est venu vraiment... le polar, c'est vraiment devenu un genre avec les États-Unis dans les années 20. Avec des gens comme Dashiell Hammett, etc., qui voulaient parler des mauvais côtés de la société, ce qu'ils appelaient les durs à cuire, les voyous, la mafia, ce que ça transformait dans la société. Et puis voilà, ça a continué en France, et c'est surtout apparu après la guerre, dans les années 50-60, où effectivement il y a des collections comme la série noire qui était très spécialisée. C'est Jacques Prévert qui avait trouvé le nom, c'est un grand poète. Je ne sais pas si vous avez appris des poèmes de Jacques Prévert, mais voilà, c'est lui qui avait trouvé le nom. Et ça continue, mais c'est pas vraiment, c'est très difficile de définir que c'est un genre à part, c'est du roman. C'est du roman, et puis soit il est bon, soit il n'est pas bon. C'est comme la littérature blanche, il y en a de la bonne et de la pas bonne.
Vous êtes plutôt machine à écrire, stylo ou ordi ?
Alors machine à écrire, ma foi, j'ai essayé quand j'étais jeune, mais c'était vraiment pas terrible. Donc je suis plutôt traitement de texte maintenant. Mais le stylo, c'est toujours très important. J'ai toujours 3 ou 4 carnets avec moi. Ouais. J'ai toujours 3 ou 4 carnets avec moi et quand j'ai une idée, je la note. Ça m'arrive aussi sur mon téléphone parce que ça passe très vite une idée. Et puis le lendemain, tu te rappelles que tu as eu une idée, mais tu ne sais absolument plus laquelle. Donc l'écrit et savoir écrire avec un stylo, c'est bien important aussi.
Vous êtes également animateur à Radio Évasion. Vous réalisez une émission sur le polar, pourquoi ?
Alors parce que déjà... Parce que je connaissais Pierre-Yves, et puis je me suis aperçu que dans tous les romans que je lisais, parce que j'en lis quand même beaucoup, il y a de la musique, et je me suis dit que ce serait pas bête de pouvoir parler de littérature, de présenter des livres, et puis en même temps de faire écouter la musique qu'il y avait dedans, parce que les auteurs, ils mettent de la musique. C'est pas forcément la musique qu'ils aiment, c'est la musique qui va avec l'histoire. Et donc, ça fait 7 ans maintenant qu'on, qu'on fait des émissions d'une heure où j'invite des auteurs à parler de leurs romans, des éditeurs aussi à présenter leur travail, à expliquer pourquoi ils sont éditeurs, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de montrer au public. Et puis des fois, les auteurs, ça leur permet aussi d'expliquer des choses que les critiques n'ont pas dit ou n'ont pas vues, ou de présenter leur travail futur, enfin, de parler de livres, parce qu'il y a très très peu d'émissions qui parlent de livres, très très peu. Voilà, c'était mon envie à moi et à Pierre-Yves.
Pouvez-vous nous parler du Centre National du Livre ?
Ah oui, alors ça c'est une institution du gouvernement, c'est-à-dire que ça dépend du ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture alloue un budget, je crois que pour l'année 2020, c'était 31 millions d'euros. Donc c'était quand même beaucoup. Et le Centre National du Livre, il a pour fonction d'aider à la promotion de la lecture, c'est-à-dire en direction de tous les publics. Ça peut être des enfants, des tout petits enfants, ça peut être des adultes. Ils ont des actions comme par exemple partir en livre l'été, qui permettent de distribuer des livres, enfin d'inciter à la lecture pendant les vacances, et aussi d'aider les différents acteurs de la filière du livre. Donc ça peut être les auteurs, les éditeurs, les traducteurs, la presse spécialisée. Enfin, il y a 19 commissions, je crois, qui sont... La poésie aussi, enfin, il y a 19 commissions qui sont chargées de répartir les budgets pour aider à la création.
Comment êtes-vous rentré ? Pourquoi ? Et quel est votre rôle ?
Alors, comment je suis rentré ? Je suis rentré parce que j'y étais invité par l'ancien président qui s'appelait Vincent Monnadet, qui connaissait mon travail comme critique littéraire. Et qui... Parce que quand on rentre au Centre National du Livre, c'est pour 3 ans. Ce qui est très bien comme ça, parce que ça évite de prendre des habitudes. Et tous les 3 ans, c'est renouvelable par tiers. C'est un peu comme le Sénat. Et donc, il y a toujours des gens qui rentrent et qui sortent. Et donc, il y avait un poste et il m'a proposé. Alors, pourquoi je suis rentré ? Parce que je trouve que c'est un grand honneur. Et puis, c'est important d'aider les auteurs à écrire. Moi, je fais partie de la commission roman. C'est-à-dire que les auteurs déposent un dossier avec un projet. Ce sont des auteurs qui ont déjà au moins publié un livre dans une maison d'édition, pas compte d'auteur. Et ils proposent un projet de ce qu'ils vont écrire et ils demandent, en fonction du temps que ça va leur prendre, une aide, une bourse. Et je ne me rappelle plus du tout la fin de la question, pourquoi j'y suis rentré et ce que j'y fais. Alors, ce que j'y fais, c'est que moi, je suis membre de la commission roman. Donc, tu vois, par rapport à la question de tout à l'heure sur le polar, il n'y a pas une commission polar et une commission roman. Il n'y a qu'une commission roman. Et on traite de tous les romans qui sortent. Et donc, on a 3 réunions par an à Paris. Ça se passe au Centre National du Livre, c'est rue de Verneuil. Et on a un certain nombre de dossiers. Il faut compter à peu près une centaine de demandes par session. Et avant chaque session, un mois et demi avant, on reçoit 6, 7, 8, 9, 10 romans à lire et établir des fiches de lecture sur les dossiers qu'on traite. Et ensuite, on se réunit et on discute entre nous de ce qu'on a pensé, de l'auteur, de son projet, de l'auteur ou de l'autrice, hein, de son projet. Et puis, si on est d'accord ou pas d'accord pour accorder la bourse, si on donne tant ou si on donne un peu moins ou un peu plus, enfin, etc. C'est ce travail-là. C'est d'évaluer si la demande d'argent et la création sont cohérentes. Voilà.
Comment les écrivains ont-ils traversé la crise du Covid-19 lorsque les bibliothèques, enfin que les librairies étaient fermées ?
Ouais, les librairies. Ça a été un véritable cataclysme. C'était absolument terrible. Parce que, pas seulement pour les auteurs ou les autrices, mais ça a été une catastrophe terrible pour toute la filière du livre. Parce qu'il faut savoir que la filière du livre, en France, c'est à peu près 82 000 personnes qui y travaillent. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des salariés, mais qui sont des travailleurs indépendants et qui se sont retrouvés sans travail du tout. C'est-à-dire tous les gens qui sont traducteurs, qui sont attachés de presse, les éditeurs qui ne pouvaient plus sortir leurs livres. Il y a des auteurs qui avaient des livres prêts à sortir ou qui étaient sortis en mars et qui tout d'un coup se sont retrouvés avec des livres qui ne sont pas vendus parce que les librairies sont fermées. Faut savoir qu'un livre, la durée de vie d'un livre dans les librairies, c'est à peu près 2 mois sur les tables des libraires. Donc, comme le confinement a duré 6 mois ou un truc comme ça, il y a plein de livres qui sont sortis, qui ont été livrés chez les libraires, mais en fait que le public n'a pas vu. Parce que entre le moment où les livres sont sortis et le moment où les librairies se sont réouvertes, d'autres livres étaient sortis et donc ça a été noyé sous la masse. Il faut savoir qu'en France, tous les jours, il y a 225 livres qui sortent. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même le dimanche, même les jours fériés. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le tas que ça représente. Donc un décalage comme la crise sanitaire, ça fait... Moi, je connais des auteurs qui avaient des ouvrages qui devaient paraître en 2020, qui ne paraîtront finalement qu'en 2022. En sachant que l'auteur est payé à peu près un an après la sortie de l'ouvrage, ce qui fait que des ouvrages qui auraient dû leur apporter de l'argent en 2021 ne leur rapportera qu'en 2023. Donc c'est pour ça, ça explique aussi pourquoi il y a très très peu d'auteurs qui vivent de leur travail d'auteur. C'est pas un métier pour gagner des sous.
Pour cette interview, vous nous avez proposé de nous écrire une nouvelle. De quoi parle-t-elle ?
Alors, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Amine et qui joue super bien au foot, qui est très, très doué. Enfin, c'est ce que lui dit un vieux monsieur qui est dans son village, qui s'appelle Coach Abdou. Et il lui explique vraiment, il tire des deux pieds, pied droit, pied gauche, il dribble très bien, etc. Et qui sait tout faire. Et à partir du moment où on sait tout faire, on peut quand même rêver d'à peu près tout. Puisqu'on sait tout faire. Et puis, il y a des gens qui viennent dans son village, des blancs et des militaires, et le gouvernement a décidé de réquisitionner les terres parce que apparemment on a trouvé de l'or dans ce village-là. Et quand on cherche de l'or, on utilise des produits chimiques qui ont tendance à empoisonner la terre et les fleuves et les rivières. Et le bétail se met à mourir, les paysans n'ont plus de terre. Ils sont employés par la mine, mais ils sont payés 2 sous par jour. Et finalement, le père et la mère du petit garçon de la mine meurent. Et il se résout à partir vers l'Europe, parce que vers l'Europe, on lui a toujours décrit comme c'était c'est un pays. Enfin, déjà, ils ne savent pas trop les différents pays, mais l'Europe, c'est un pays merveilleux où tout est facile, tout est extraordinaire. Et puis voilà, il part sur la route, il traverse des régions très hostiles comme la Libye, comme le Sahel, etc., là où il y a les troupes françaises en ce moment, c'est qui se battent dans le désert. Et puis il arrive en Méditerranée, là il faut traverser, et puis voilà, c'est ce qui arrive à beaucoup de réfugiés, de migrants. Son bateau, il se retourne, et la seule chose qu'il ne savait pas faire, c'est nager.
Est-ce que cette histoire est vraie ?
Alors non, et oui. Alors non, parce que c'est pas l'histoire de quelqu'un, Amine, je le connais pas. Oui, parce que tout ce que je raconte dans cette histoire-là, ça se passe tous les jours, mais en pire, à travers l'Afrique, à travers l'Asie, le Moyen-Orient. Et que oui, effectivement, tous les jours, il y a des millions et des millions d'enfants qui descendent dans des mines parce que les trous sont trop petits pour envoyer des adultes. Donc il y a des enfants à partir de 5-6 ans qui sont descendus dans les mines. Il faut savoir qu'il fait à peu près 40-45 degrés dans les puits de mines pour remonter soit des minerais qui sont très rares, dont on a besoin, nous, pour les ordinateurs, pour les smartphones, pour tous ces produits-là, que n'auront jamais. Et oui, ça, c'est quotidien, quoi. Et que ces enfants-là ou leurs parents entament le voyage. Et puis, ce qui se passe dans le voyage, c'est encore pire que ce que je raconte dans ma nouvelle. Et en fait, moi, j'écris ça parce que souvent, on fait la distinction, quand on parle des migrants, entre les réfugiés, ceux qui sont victimes de guerre, parce qu'il y a effectivement la guerre dans leur pays, et ce qu'on appelle des réfugiés économiques, c'est-à-dire des pays qui sont soi-disant pas en guerre. Mais par exemple, des enfants ou des adultes qui viennent du Congo, qui est de la République démocratique du Congo, qui est un pays qui n'est pas en guerre, sont effectivement chassés par des bandes armées, et ça revient exactement au même que si c'était une armée de soldats régulière. Donc oui, effectivement, c'est... Non, c'est pas vrai, Amine n'existe pas en tant que tel, mais oui, c'est vrai. Tout ce que je raconte est vrai.
Selon nos sources, vous aimez la musique et particulièrement le métal. Est-ce que la musique vous inspire beaucoup ?
Ouais, la musique, c'est quelque chose qui est très important en littérature, ne serait-ce que parce que quand tu écris, il faut que tes phrases aient une certaine musicalité. Il faut qu'il y ait un rythme. Et moi, ça m'arrive quand je relis, parce que de lire tout haut pour entendre, parce que, voir si ce que j'écris est harmonieux, s'il y a une mélodie qui s'en dégage. Autrement, j'écris souvent avec, comme toi, avec un casque sur les oreilles, pour me couper du monde. Ça n'a pas forcément à voir avec ce que j'écris. Mais moi, ça me permet de me concentrer. Il y en a d'autres, ça les dérange. Voilà, c'est comme ça. Moi, ça me permet de me concentrer. Et puis, je me sers de la musique aussi avec mes personnages. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde où on baigne dans la musique. Il y en a partout, à la radio, les autoradios, sur nos smartphones, sur les ordinateurs. Donc, voilà, les personnages de romans, ils sont comme nous. Hein, ils vivent dans notre monde. C'est là qu'il faut faire attention quand tu écris un roman qui se passe, par exemple, dans les années 50. Que le personnage n'écoute pas de la musique sur son smartphone, par exemple. Parce que ça n'existait pas.
Merci beaucoup, Monsieur Carnuluti.
Mais
et justement, en parlant de musique, nous retrouvons Titouan pour son coup de cœur musical.
Je vais vous parler de Madeline Anne et du titre Varvor. La première fois que je l'ai écouté avec la maîtresse, je voulais l'écouter jusqu'à la fin parce que la maîtresse avait coupé la vidéo avant. Tellement la musique était très bien, très entraînante, très apaisante et très touchante. On a également les sous-titres qui nous permettent de comprendre le texte. Madeline Anne est une chanteuse de cabaret qui chante en breton. Même si elle chante en breton, la musique ressemble à des choses que l'on peut écouter plus souvent en français ou en anglais. On en écoute un extrait.
Mas on ne vle niente ar valafin, mas on ne vezen ti en delien, mas on ma roat nizo ar menejou. Warndrizen an a velo weza, war a reiera, war gen o flura, a war vu ema a rarantiz, gortuz a rum.
Ooh.
écouter Madeline Hahn. Si vous voulez écouter les chansons de Madeline Hahn, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de l'artiste. Qui sait, peut-être que Madeline Hahn écoute cette émission. Nous lui lançons l'invitation pour qu'elle vienne dans notre émission. Parlons maintenant cinéma et sorties à venir avec Léo.
Bonjour, je vais vous parler du Loup et le Lion, un film sorti le 13 octobre 2021. Voici l'histoire. À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance. Perdue sur une île déserte du Canada, là tout bascule quand un loup veto et un lionceau en détresse surgissent dans la vie de l'héroïne. Elle choisit de les garder pour les sauver. Et l'improbable se produit. Ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. La bande d'annonces m'a plu et m'a donné envie d'aller le voir au cinéma.
Et voilà, c'était tout pour l'interview et les deux chroniques culture du podcast de Saint-Ségal. Et surtout, merci aux auditeurs et à notre invité Patrick Carnier-Lutti. Rendez-vous pour la prochaine émission dans un mois avec notre prochaine invitée, Solène Durand-Harpen. Elle travaille à la salle de spectacle de Châteaulin. Nous découvrirons le fonctionnement de la salle de concert. Sur ce, passez un très bon moment à l'écoute de Radio Évasion.